simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, c'est l'écho du Garrig à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va continuer notre petit tour de France qu'on avait commencé il y a 15 jours. Donc, cette fois-ci, on va aller dans trois endroits tout à fait différents où la lutte a des aspects tout à fait différents. Le premier, ça va être le département de l'Allier, hein, Moulins, Montluçon. Ensuite, on ira à Paris. Donc, effectivement, c'est un grand voyage. Et ensuite, le troisième, on retournera à Boulogne-sur-Mer puisqu'il se passe des choses intéressantes à Boulogne. Donc alors, voilà ce qu'on peut dire. On attend le coup de fil de l'Allier. Dis-nous un petit peu sur Reims, qu'est-ce qui se passe?
Ah bah alors, sur Reims, se passent des choses incroyables, extraordinaires, comme partout un peu en France, mais on est quand même très très heureux de vous annoncer ici que à Reims, il se passe des blocages, un blocage en l'occurrence, puisque samedi matin, à l'initiative de l'Assemblée Générale de la ville de Reims, s'est déroulé sur une durée de 6 heures le blocage de la du principal site d'envoi de colis de la Poste dans la zone Farman, où pendant 6 heures, les colis qui partent de ce lieu ont été empêchés de sortir. Et cette action s'est extrêmement bien déroulée. Elle réunissait des gens de Reims, de l'Assemblée, je l'ai dit. Il y avait des syndiqués, des non-syndiqués, des profs, des cheminots, des chômeurs, des étudiants. Il y avait aussi des gilets jaunes qui sont venus aussi de Chalon pour nous aider dans ce blocage. Et ça s'est extrêmement bien déroulé puisque on a réussi à se débarrasser des flics assez rapidement, au bout d'une heure. Donc on a pu, on va dire, évacuer la possibilité d'une répression ou de se faire dégager un peu violemment. Donc tout de suite, ça crée une ambiance qui est beaucoup plus sereine. Et puis on est entré en contact avec les travailleurs du site qui nous ont renseigné à la fois sur les modalités qui étaient les meilleures pour elles du blocage, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne restait pas assez longtemps, ils pouvaient être amenés à rattraper le retard.
À bosser plus, ouais.
C'est ça, bosser plus sans être payé, ou alors à récupérer le jour d'après. Et puis finalement, en fait, ce qu'on a réussi à faire en maintenant ce blocage dans la durée, c'est alors permettre de quitter plus tôt, tout en étant payé de manière intégrale, et puis à éviter qu'il y ait un rattrapage du travail qui n'avait pas pu être effectué ce samedi. Alors forcément, ça met une super ambiance à la fois pendant le moment. Et puis aussi, entre tous les participants au blocage, ça permet comment dire, de se rendre compte de la force que peut avoir quand on s'organise collectivement. Alors cette initiative, je le répète, elle est issue des assemblées générales qui se déroulent tous les matins à la maison des syndicats. Et puis de ces assemblées générales a émergé un petit groupe qui a pris en charge l'organisation de ce blocage. Un petit groupe qui n'a pas vocation à diriger quoi que ce soit, mais qui avait le mandat donc d'organiser pratiquement ce blocage et de le proposer ensuite à l'assemblée générale. Elle s'est saisie de ce mandat, l'a rempli de manière très bien, faut le saluer. Et je crois que c'est extrêmement important de souligner que cette organisation sous le biais de ces mandats est quelque chose qu'il faut développer et qu'il faut renouveler. En effet, les assemblées générales et les discussions collectives à 30 ou 40, elles sont extrêmement importantes, bien sûr, pour garantir l'aspect démocratique des actions qui sont décidées et des directions que le mouvement et des initiatives que le mouvement serait amené à prendre. Mais évidemment, s'organiser concrètement, ça nécessite de pouvoir le faire, alors peut-être pas dans le calme, mais en tous les cas dans un climat un peu plus serein et un peu plus, on va dire, restreint que celui de l'Assemblée générale. Mais rendre compte après de son mandat, le discuter de manière sereine et évidemment tout à fait calme, c'est vraiment un moyen qui permet de passer à un stade d'organisation supérieur et de mettre en œuvre ces pratiques qui sont un petit peu plus offensives. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce moment-là, il a été un moment important pour nous, qui nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait faire des choses sans attendre les grandes journées, sans attendre l'agenda de l'intersyndicale, et elle nous a donné aussi confiance, dans notre force collective, et on espère vraiment que ce phénomène-là, il va s'amplifier et qui sera amené à se renouveler au cours des prochains jours, parce que si on attend, en tous les cas, si on n'arrive pas à impulser des moments avant le 9 janvier, on risque effectivement de s'affaiblir et de se rendre compte qu'on est dépossédé de notre mouvement par l'intersyndicale nationale qui aimerait pouvoir avoir la main mise et appuyer sur les boutons de la mobilisation. On n'est pas que de la chair à manifestation ou que de la chair à syndicat. Ce mouvement, c'est aussi le nôtre. C'est d'abord le nôtre, même, on serait tenté de dire. Et simplement, pour se l'approprier et pour pouvoir compter dedans, il faut, répétons-le, s'organiser, peser. Le rapport de force, il se fait avec le gouvernement, il se fait aussi avec les syndicats et tous les acteurs politiques de cette manifestation, mais il est d'abord celui des manifestants et des manifestantes, des acteurs et des actrices de ce mouvement, quoi. Donc à suivre, on peut inviter les gens déjà à deux rendez-vous, les auditeurs. Les AG sont suspendus là pendant quelques jours pendant la période de Noël. Ils reprendront évidemment très rapidement, certainement la semaine prochaine. Et puis vendredi matin, on donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent devant la gare. Donc il y a deux rendez-vous, un premier à 7h pour pouvoir échanger avec les gens qui viendront prendre le train. En échange, on leur offrira un café et peut-être même un croissant. Waouh. Et à midi, on mange devant la gare et ça sera l'occasion certainement de prise de parole et aussi d'affirmer notre soutien aux cheminots grévistes et pourquoi pas de discuter collectivement pour pouvoir décider de la suite du mouvement, en tous les cas de poursuivre ce phénomène d'auto-organisation. Voilà.
Alors je crois qu'on va maintenant,
ouais, Dominique,
on va maintenant entendre un autre son de cloche d'après ce que j'ai pu savoir. Dominique, tu nous entends?
Oui, j'entends.
Alors raconte-nous un peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans l'Allier, c'est-à-dire à Moulins et à Montluçon.
Oui, donc ça se passe pas dans l'Allier. c'est surtout pris par les syndicats. Bon, c'est habituel hein, dans l'Allier, donc on n'est pas trop déçu, mais si tu veux, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu à la loi travail, quoi.
Mmh, d'accord.
Hein, c'est C'est-à-dire les manifs, on a réussi à avoir des manifs avec 3 000, 3 500 personnes sur Montluçon, ce qui est quand même pas mal pour,
une petite
pour l'époque, on va dire. Et une fois que la manif est finie, il y a l'international qui retentit et tout le monde plie les gaules et s'en va.
Et s'en va, ouais. Il n'y a pas l'Assemblée Générale.
Voilà, il faut une Assemblée Générale.
Attends, on t'entend plus là.
Ouais, ils font une Assemblée Générale à la CGT.
Ouais, quand ?
Mais c'est pour décider de ce qu'ils vont faire, quoi.
D'accord.
Alors qu'ils ont préparé ça depuis 2 mois, quoi.
D'accord.
Là, je parle du 5, hein, du 5 décembre. Mais le 17, ils ont fait pareil, ils ont fait une assemblée, et l'après-midi, il n'y a aucun... Il n'y a rien qui se passe, quoi.
Ouais.
Il
n'y
a aucune décision de prise. Les seuls mouvements qui ont été faits, des blocages qui ont été effectués, c'est par des gilets jaunes, sans les syndiqués. Et par contre, ils appellent à chaque fois les gilets jaunes pour venir faire leur simili-blocage, des choses comme ça, quoi. Un exemple, c'est à Cusset, à côté de Vichy, il y a un entrepôt de
carburant.
D'essence, de carburant. Ouais. On l'avait bloqué à la loi travail en 2016. À 11h30, ils ont plié les Gaules. On croyait qu'ils voulaient aller faire une action ailleurs. Non, ils rentraient chez eux. Bon, on a appris plus tard, effectivement, qu'en fin de compte, ils avaient un accord avec les Gaules. Ils pouvaient bloquer de 6h le matin jusqu'à 11h, et puis après, ils s'en allaient, quoi.
D'accord.
Et donc là, ils ont refait la même chose. Dernièrement, là, c'est il y a deux jours ou trois jours.
On t'entend plus, là.
Oui, c'est à chaque fois que je bouge. Ils
oui.
se sont retrouvés à 120. Alors, gilets jaunes quasiment pour moitié et syndiqués pour l'autre moitié. Où il y a 20 Pékins, des flics qui sont arrivés avec 3 boucliers à 11h, pareil, 11h, 11h30. Et puis, ils les ont fait partir, quoi.
D'accord.
Tu vois le genre, quoi.
Et toi, dans ce que tu décris... tu vois aucun espace qui permettrait une auto-organisation ou quelque chose qui pourrait faire poids ou contrepoids justement à la force syndicale ?
Non. Non, parce que si tu veux, il y a une emprise telle, parce qu'il faut quand même reconnaître que sur Montluçon, qui a été une cité quand même très industrialisée, qui est en perte de vitesse depuis des années, mais qui est quand même toujours maintenu par le syndicat CGT, voire les anciens communistes et tout ça, quoi. C'est il y a un vieux reliquat de stalinisme à l'intérieur qui est encore présent, quoi. Et donc à chaque fois que quelqu'un essaye de faire ou de dire quelque chose, on l'arrête tout de suite. Et d'abord, de toute façon, il sera pas suivi.
D'accord. Et les gilets jaunes.
Ouais.
Et les gilets jaunes qui avaient fait quand même, vous avez été nombreux, je crois, il y a un an, au niveau des ronds-points, tout ça.
Ouais. Et ben là, ça s'était bien passé, parce que avec quasiment moins de monde, la moitié moins de monde, on a bloqué quand même quasiment tout le département. Et aujourd'hui, on se compte, quoi. Hein, on n'est plus vraiment très nombreux, quoi.
Ouais, vous êtes plus nombreux. Et,
non.
Et pourquoi ? Comment que t'expliques ça ?
Bah, si tu veux, il y a eu plein de scissions. C'est un petit peu les batailles de village hein, qu'il y a eu au niveau du gilet jaune et des batailles de personnes. Donc il y a beaucoup qui voulaient faire des associations, d'autres qui voulaient faire... Enfin, c'était il n'y avait pas vraiment de coordination. Et quand on a essayé de faire des coordinations, y compris avec les départements limitrophes, bah déjà, comme les sessions s'étaient passées auparavant, on se retrouvait plus très nombreux en étant d'accord pour faire... ce genre de coordination, quoi. Donc, si tu veux, le blocage qui a eu lieu sur un site qu'on appelle le rond-point de Montmarault, qui est un point stratégique dans l'Allier, tout le flux de l'Europe, donc c'est souvent qu'on se retrouve là-bas, on s'est retrouvé à une centaine de gilets jaunes, à peu près. On a bloqué un petit peu, et ça a foutu le bordel pendant environ 2 heures et demie. Mais c'était déjà une assemblée qui avait eu lieu entre gilets jaunes de plein de départements alentours. et on s'est retrouvé qu'à 100, quoi. Donc, c'est là la limite de ce qu'on peut faire. Moi.
Et qu'est-ce qui pourrait se passer pour, justement, essayer de débloquer la situation?
Alors là, tu vois, si tu veux, là, je vois pas bien. Je ouais, vois enfin, pas bien.
Si tu vois, tu le mettras en œuvre. Mais...
ouais.
Il y a des gens qui s'engagent, je suppose, au niveau des cheminots et au niveau de...
Oui, par exemple, sur Moulins, quand j'ai été à la manif de Moulins, la gare, elle est fermée depuis le 5 décembre.
D'accord.
Mais ça, un peu, ça se comprend. Comme c'est des intercités ou des TER, c'est plutôt des bus. Donc,
oui, voilà.
Il n'y a plus de train, quoi.
Il n'y a plus de train, mais il y a des bus.
Et les cheminots et les cheminotes qui sont en grève ont pas de velléité à avoir, je dirais, plus de pouvoir, plus de contrôle sur leur mouvement? Ils sont disciplinés, ils restent entre eux?
Ah, ils restent entre eux.
Ouais.
Si tu veux, il y a des réseaux qui avaient été créés en 2007. Et par téléphone, on était prévenu des actions qui se passaient, mais ces actions, ils étaient décidés sans nous, quoi.
Ouais.
Tu vois, on était un peu de la main d'œuvre. Donc ça, bon, on a fatigué. Maintenant, on fait plus main d'œuvre, quoi.
Ouais, d'accord. Oui, c'est ça le problème.
Ouais, c'est vachement cloisonné, quoi.
Ah, complètement. Ouais, c'est très fermé. Et même sur Moulins, un petit peu partout de la CGT Moulins, où ils n'ont pas de secrétaire et ils fonctionnent en collégial. Mais ça fonctionne pas.
Ouais, essaye de nous. On t'entend pas là.
Alors, essaye de bien parler dans ton téléphone, s'il te plaît, parce que ça nous fait des allers-retours. Et du côté des profs.
Bah les profs, là dernièrement sur celle du 17, il y en avait beaucoup plus dehors, par contre.
Ouais.
Mais il y avait a priori moins d'écoles de fermées que le 5.
D'accord.
Enfin, qu'il y avait beaucoup d'écoles de fermées, par contre, il n'y avait pas beaucoup de profs dans les manifs.
Et c'est pareil de ce côté-là, pas de volonté d'auto-organisation.
Non. Non, mais c'est pas courant, hein. Dans l'Allier, le jour où ça va se passer, ça, je...
C'est vrai, tu nous appelles.
Je prendrai des photos, hein.
Bon, ben.
Non, c'est très compliqué. Très compliqué.
Bah, écoute, à courage, hein, on te remercie.
Ouais, ben rien.
C'est important quand même que t'aies pu exprimer ce qui se passait dans l'Allier, puisqu'on faut pas non plus dans notre ce qu'on fait d'être triomphaliste. C'est pas
du tout.
Tu vois, il y a intérêt justement à ce qu'on sache un peu ce qui se passe partout ailleurs. Et là, effectivement, l'Allier, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce département, avec un certain Lajoigny, je crois, si je me trompe pas, non?
Ouais. Ouais, donc, oui.
Il y a toute une histoire du Parti communiste et de la CGT. Et effectivement, on s'en sort très mal, même après.
Oui. Et puis bon, c'est quand même un département qui avait un communiste municipaliste, on va dire.
Ouais.
C'était pas comme le communiste qu'on pouvait trouver au PCF de la région parisienne. Hein, il y avait quand même une histoire qui était paysanne, donc avec les communs et les choses comme ça, quand même. Mais très, très hiérarchisé, très autoritaire, quand même.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà. Bon courage, Dominique, puis reste à l'écoute, tu vas voir, la suite va te remonter un peu le moral, quand même. Ouais. Voilà.
D'accord.
Salut, camarade. À bientôt.
Ouais. Allez, bon courage à vous.
Merci.
Au revoir. Thank you.
Alors maintenant, on va entendre un autre son de cloche. De toute façon, c'est logique puisqu'on va se retrouver à Paris. Donc, on n'est plus du tout dans l'Allier. Hein. Bon, la zone est plus rurale, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, Manu, je crois que tu nous entends.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, raconte-nous un petit peu comment que ça se passe à Paris, en dehors des manifestations, évidemment, qu'on peut suivre à la télévision, mais justement, au niveau de la structuration du mouvement.
Bah alors, quand même, les manifestations ont leur importance, parce que il y a eu, quand même, ces dernières années, une dynamique très forte en manifestation, notamment, bon, bah, axée, du coup, autour de la répression, une espèce d'échange, balle de ping-pong, répression, radicalité. Ça, ce cycle-là était un peu cassé, entre autres par beaucoup de policiers qui nous empêchent de faire des choses qui pouvaient être possibles avant ou qui se faisaient. En tout cas, il n'y a plus cette dynamique-là dans la manifestation et ça redéfinit quand même un petit peu le mouvement. Du coup, avec des réflexions sur un retour à un militantisme un peu plus de base, notamment autour des piquets de grève, des choses comme ça. La première caractéristique quand même du mouvement, c'est sa force en termes numériques à Paris, qui est quand même un mouvement extrêmement fort, qui est plus fort que je dirais que le mouvement de 2010, qui s'était traduit, on s'en souvient, par une défaite lamentable et des stratégies syndicales catastrophiques. Là, la différence, c'est quand même qu'on est face à des grèves assez actives, avec une présence très forte de la grève et très visible. Du fait, notamment du fait qu'il n'y ait pas de transport, et donc que tout le monde marche. Et ça, c'est quand même assez notable. Du coup, des secteurs très, 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 très mobilisés, notamment les enseignants du premier, second degré, qui sont tout à fait moteurs de la mobilisation. Et c'est beaucoup de ce secteur-là que viennent qu'impulse les assemblées interpro, les assemblées de quartier, les choses comme ça. Les instituteurs, profs sont très en demande de sortir simplement du cadre strictement syndical et rechercher les interpro, qui regroupent souvent des militants syndicaux, mais pas que. Et donc il y a quand même une grosse dynamique, notamment. À l'initiative des enseignants d'assemblées interpro. Alors ces assemblées interpro, elles prennent des formes diverses et variées. Elles regroupent des gens qui vont donc certaines assemblées étaient quand même pas mal de militants professionnels hein, qui y sont. Faut pas se leurrer. Et après, ça déborde un petit peu, ça dépasse ça, notamment à travers des assemblées un peu de quartier qui sont faites. Et ça, c'est quand même une initiative qui a été amplifié du fait des problématiques de transport parce que les gens ils peuvent pas bouger le soir donc ils se retrouvent dans leur quartier à défaut de se retrouver dans leur travail hein, sur leur lieu de travail et ces mobilisations donc ça a des mobilisations diverses hein, c'est sûr que dans le 20e arrondissement c'est beaucoup plus actif que dans les beaux quartiers du 17e comme d'habitude.
Oui, c'est évident.
Comment ?
C'est évident, oui.
Oui, ça semble assez logique. Ça, on reste quand même, pour moi, malgré sa force, ce mouvement reste quand même un mouvement de gauche qui n'a pas une composante complètement nouvelle, comme pouvait l'être, je ne sais pas, les Gilets jaunes, par exemple. Et donc on reste sur des schémas qu'on connaît, une espèce de grand mouvement social à la française, avec une intersyndicale qui dicte malgré tout le rythme. Et donc on ressent à Paris ce désir de ressortir un peu du rythme de l'intersyndicale à travers les AG interpro, mais ces AG interpro peinent quand même souvent à donner lieu à des résultats concrets.
Alors moi ce que je trouve intéressant, et je pense que ça peut être un espoir, en tous les cas une donnée peut-être pas entièrement nouvelle, mais qui va permettre de donner de la force à ce mouvement, c'est que tu l'as dit, il y a des gens différents qui se rencontrent sur les blocages. Et en région parisienne et à Paris, l'avantage, c'est que les dépôts de bus, par exemple, sont à l'intérieur de la ville.
Donc c'est des endroits où on peut bloquer et on peut avoir une nuisance sur l'économie. Et c'est aussi dans ces moments-là, sur les lieux de rencontre, des lieux d'action, que les gens peuvent se rencontrer, créer de la rupture avec le quotidien, faire vivre la grève, lui donner chair, lui donner corps, et c'est des rencontres qui valent, pour moi, tout autant que les assemblées générales, qui permettent de constituer des liens et de mettre en œuvre la solidarité et la pratique. Est-ce que tu peux me confirmer ou m'infirmer, peut-être je me trompe, mais que ces pratiques de blocage, notamment des dépôts de bus, sont constantes et rencontrent un succès, même si elles sont parfois et souvent dégagées par les flics?
Alors oui, voilà, ça c'est sûr que ce truc-là, ça a été très fort sur certains dépôts de bus. Donc il y a eu principalement les gros points, c'était Ivry, le dépôt d'Ivry, où il y avait une très grosse dynamique avec le matin à 5h du matin 200 personnes, ce qui est quand même pas mal, et le dépôt de Lagny dans le 20e, et le dépôt de Pleyel à Saint-Ouen. Et du coup, ça c'est des après il y a eu d'autres actions dessus, mais ça c'était un peu les gros points, et Aubervilliers aussi. Et c'était les gros points qui étaient vraiment... important, et ça a permis effectivement, je pense, des rencontres entre différents secteurs de lutte, et c'était beaucoup à ce moment-là que ça se passait. Ça a permis aussi aux gens de s'organiser, de réfléchir aux choses, parce que le blocage durait 2 heures, et même si des fois il marchait pas, parce que souvent quand même il y avait beaucoup de flics, et du coup ça passait. Les bus, enfin le blocage, je veux dire, il n'était pas effectif. Enfin, il y avait clairement à la fin. À chaque fois, les bus y sont sortis avec plus ou moins mal, mais ça sortait. Le mouvement n'avait pas assez de force pour complètement bloquer, interdire de sortir les jaunes, quoi. C'était vraiment compliqué. Mais par contre, ça a lancé une dynamique, ça a permis aux gens de se retrouver, et ça, c'était super important. Après, quand même, le petit bémol que je mettrais sur cette chose-là, c'est que c'est quand même quelque chose qui favorise aussi cette focalisation sur les dépôts de bus, favorise aussi la grève par procuration qui peut se dessiner. C'est-à-dire que assez facilement, voilà, on va mettre tout le paquet sur le secteur locomotive, qui est soit la RATP, la SNCF, les raffineries, voilà. Et en même temps, on n'actionne rien sur le lieu de travail. Ça peut être aussi un enjeu comme ça. Ceci dit, il y a quand même des exemples un peu contraires. C'est-à-dire que par exemple ce matin, des gens de la CGT Commerce ont été foutre le bordel et faire des petits rassemblements sur le cours de Vincennes, où il y a des grandes enseignes, Castorama, Monoprix, tout ça, pour essayer de faire débrayer les gens. Donc il y a quand même aussi des choses qui font... C'est quand même plutôt une dynamique
bonne
chouette
nouvelle,
qui tend à penser que, au moins dans certaines parties des syndicats, il y a une volonté de détendre la grève et pas seulement de la maintenir dans un corps précis, quoi.
Et les facs et les lycées, parce qu'il y a quand même, il y a une je le relevais moi dans le compte rendu que je faisais à mes camarades, l'absence extrêmement notable de la jeunesse dans notre ville et l'incapacité des étudiants à se proposer et à s'incruster dans ce mouvement comme force. Les facs à Paris, ça donne quoi?
Alors les facs à Paris, c'est comme partout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dynamique sur les facs. Il y a eu, mais comme il n'y a pas de dynamique depuis des années en fait. Le dernier mouvement, c'est un peu conséquent, il y a eu 2018, mais c'était vraiment très très compliqué et pas très intéressant. Le dernier mouvement un peu d'ampleur et qui a été intéressant, c'était en 2007, et c'est pas pour rien. C'est que en fait, je pense que on a beau jeu de dire, voilà, les militants étudiants, ils glandent et tout, c'est en partie vrai, mais c'est surtout le fait qu'il y a un problème structurel dans la fac, où, ça, pour en avoir parlé à quelques militants étudiants, hein, c'est vraiment, ils ont des partiels tous les 2 mois, c'est vraiment un rythme super différent, et il y a eu des questions de sélection qui se sont posées et qu'on fait un petit tri. Par contre, la dynamique qu'il y avait, qui était intéressante, c'était sur les lycées, qui s'est avérée un peu montante à Paris cette dernière semaine. Là. Mais c'était les veilles de vacances, donc ça n'a pas pu se perpétuer. Où il y a eu des blocages, avec des tentatives de déblocage des flics, des violences policières comme d'habitude, Voilà, mais il y a eu des actions de blocage, et ça c'était plutôt riche, et a priori il y a une velléité de le faire pour la rentrée. Mais sur les facs, c'est toujours très très compliqué, et notamment des facs qui sont historiquement très mobilisées, comme la fac de Tolbiac. Tolbiac a été, maintenant ils ont une stratégie qui est complètement de fermer administrativement la fac au moindre mouvement social. Donc à partir de là, c'est super super dur, les étudiants peuvent pas s'organiser. Voilà. Ils font des lock-out de fac, qui l'eût cru, quoi.
Est-ce que tu sais s'il y a une tentative d'organisation à un échelon supérieur, notamment au niveau des blocages? Est-ce qu'il y aurait des ébauches de coordination de quelque chose, de comité d'action? Alors ici, on a parlé à plusieurs reprises pour les cheminots de la coordination ou de l'Assemblée générale dite intergare, avec plein de réserves. Oui. On va pas revenir dessus, mais bon, voilà, il y a plein de réserves, parce que entre la proclamation d'une assemblée générale intergare et sa réalité, une assemblée générale de lutte de cheminots issus de plusieurs gares, c'est autre chose. Mais est-ce que tu as avant de tentatives d'organisation un petit peu plus structurées et un échelon supérieur que celle de la simple ville?
Alors non.
Merci.
Je n'ai pas eu vent, hein. Je ne dis pas que c'est pas dans les tuyaux. Alors en fait, on est aussi emmerdé parce qu'on est invisibilisé, les gens qui tentons de développer ces trucs-là, par aussi une tendance politique qui s'est développée ces dernières années, des trotskistes proches d'un courant du NPA, pour ne pas les nommer, qui nous parlent à tort et à travers de convergence des luttes, et en fait ils font pas de la convergence de lutte ou quoi que ce soit, ils font de la convergence de militants qui se retrouvent et qui font des et qui ont l'impression de faire une AG interpro. Et une AG interpro genre décisionnelle, des choses comme ça. Et en fait je pense qu'il faut pas se leurrer là-dessus. C'est pas effectif à l'heure au jour d'aujourd'hui. Par contre, clairement, je pense que c'est dans toutes les têtes qu'il faut passer à un niveau. Un échelon supérieur, et que ces organisations à l'échelle de quartier, elles peuvent pas être pérennes sur le long terme, et surtout elles vont être assez inefficaces, quoi. Je donne quelques exemples. Il y a eu des actions décidées, par exemple dans une AG de quartier, l'action d'aller bloquer le périphérique, je crois que c'était le 17 décembre, action en lien avec donc le blocage du pays, tout ça, pourquoi pas, plutôt une bonne action. Mais elle a été faite par un seul groupe sur le périphérique, l'espace de 10 minutes, ce qui est évidemment un peu dommage et en dessous de ce qu'il faudrait par rapport à la possibilité qu'il y aurait, parce que, je le répète et je l'ai dit, il y a énormément de monde, que ce soit aux manifestations,
ouais,
mais aussi aux assemblées. Et ça, c'est quand même quelque chose à voir, parce que, contrairement à 2010, les manifestations étaient extrêmement fournies en 2010, mais les assemblées générales étaient particulièrement vides, où les espaces de discussion, les rendez-vous annexes, il n'y avait rien. Tandis que là quand même, les gens ils parlent beaucoup, et ça discute, et donc à voir ce que ça peut donner cette question-là, qui je pense est dans toutes les têtes, hein. Passer à une organisation un peu plus, voilà, avec des gens, peut-être des mandats, des choses comme ça, pour représenter les assemblées, je sais pas, d'autres formes, hein, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas le cas.
Bah écoute, on te remercie. Voilà, je peux une petite question aussi. Au niveau des, parce qu'il y a un truc qui a toujours été intéressant au niveau de Paris, c'est les marchés. Est-ce qu'il se passe des choses dans les marchés, sur les marchés?
Alors moi, habitant à Saint-Denis, je vois les tracts au marché, mais qui sont effectivement largement trustés quand même par les organisations de gauche assez classiques.
D'accord.
On est à Saint-Denis, un temple du PCF, mais pas que. Du coup, il y a quand même. En fait, c'est quand même ça qui est intéressant, c'est que par exemple, le mouvement radical retrouve, je pense qu'il a, certains l'ont toujours porté, hein, dans ce mouvement-là, mais retrouve à des pratiques massives la logique de distribuer des tracts, expliquer pourquoi ils font cette action, des choses comme ça. Donc il y a quand même, bon, moi j'ai bon espoir que ça se développe. Et je pense effectivement les marchés peuvent être cet outil-là, ce truc-là. Mais ça a été fait vraiment, vraiment de manière massive. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des tracts et qui ont fait de la pédagogie, qui ont fait de l'explication aux gens. Enfin, il y a quand même une logique des temps de la grève. Moi, c'est ça que je retiens du mouvement à Paris. Et c'est quand même l'idée la plus importante. Savoir est-ce que ça va sortir des simples secteurs qui sont impactés largement par les régimes spéciaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette volonté-là et cette velléité-là, notamment de la part, je le répète, des profs qui font grève et surtout l'État leur dit qu'ils en foutent de toute façon qu'ils fassent grève, donc ils ont bien compris que leur simple grève ne suffirait pas à faire plier, quoi.
Ouais. Bah écoute, on te remercie bien.
Ben merci beaucoup, Emmanuel.
Merci beaucoup. Et puis courage.
À bientôt.
Et puis à bientôt.
Salut à vous, ouais. Passez un coup de fil si vous êtes à Paris, hein.
D'accord.
Bah oui.
Ciao.
Alors, on va terminer notre émission. Bon, on s'excuse, hein, les conditions de réception sont un petit peu faibles, hein. Vous mettez bien à fond votre volume, hein. Ça vous permettra de mieux entendre. Et puis on va terminer avec Boulogne-sur-Mer, où là, pour terminer en beauté, puisque vous allez voir qu'il se passe des choses extrêmement intéressantes. À noter également quand même qu'il se passe des choses super intéressantes, puisque juste après l'annonce de la prochaine journée d'action au 9 janvier et de la part de deux organisations de l'intersyndicale, l'UNSA et la CFDT, appelant à faire une trêve, en tous les cas à suspendre le mouvement et se réjouissant des avancées qu'ils avaient pu obtenir lors des premières négociations. Il y a plusieurs fédérations groupes régionaux de membres de ces confédérations syndicales qui ont fait part de leur colère et de leur refus de partager le même enthousiasme et le même optimisme. Et notamment, je pense à la fédération Traction de l'UNSA à la RATP et à la CFDT Cheminots. Et notamment, donc, je répète, la fédération Traction de l'UNSA, qui a bien spécifié à l'intérieur de son communiqué que la grève, elle appartenait d'abord aux grévistes et aux âgés. Et quand on connaît un petit peu la couleur politique et syndicale des militants de l'UNSA, on se dit que ils doivent être sacrément en force et sacrément mobilisés, sacrément confiants en leur capacité de mobilisation pour pouvoir s'adresser comme ça de manière officielle à leur direction syndicale. Là se joue aussi un enjeu très très fort du mouvement, c'est-à-dire la capacité et la projection chacun et chacune aura sur son mouvement. Et vraiment le fait d'affirmer comme ça de manière publique que le mouvement il appartient d'abord aux grévistes et à ceux qui le composent, c'est un indice très très fort de la conscience qui est en train de se développer chez les grévistes et chez les acteurs de ce mouvement et qui est très très réjouissant pour la suite.
Alors on a Xavier de Boulogne-sur-Mer, là je crois qu'on va surtout parler de ce qui s'est passé pour vous le 17, ce qui se passe peut-être depuis, au niveau justement du fameux blocage de l'économie, hein, puisque c'est ça qu'il faudrait faire si on veut gagner. Alors tu peux un peu nous parler de ce qui s'est passé, Xavier, à Boulogne, parce que Boulogne, c'est quand même important comme centre de... C'est le premier centre de transformation de produits de la mer en Europe. Ensuite, on est dans une période des fêtes où il y a du pognon hein, au niveau qui doit se faire normalement.
Ouais, bah c'est bien ça, ouais. Donc t'as une zone hein, qui une grosse zone industrielle hein, qui fait 150 hectares avec 140 entreprises. Et en ce moment ça tourne à plein. Hein. C'est la période des fêtes. Donc t'as des camions qui partent en permanence. Donc c'est un petit peu toujours l'objectif hein, de taper sur cette zone-là. Donc il y a eu un blocage, il y a eu une série d'actions simultanées d'occupation des voies autour de la gare de Marais, parce que la gare de Marais c'est un gros truc, hein. C'est 500 mètres de quai d'embarquement et de débarquement, et t'as 110 poids lourds qui peuvent partir en permanence. Donc économiquement c'est conséquent. Donc il y a eu une action de blocage des voies très tôt le matin, et simultanément tu as eu des coupures d'alimentation électrique au niveau de la zone, de la totalité de la zone, et toutes les grosses entreprises, donc Marine Harvest, Capitaine Watt et tout ça, se sont retrouvées dans le noir. Donc évidemment, c'est un système où maintenant tout est informatisé, donc tu avais tous les logiciels de commande qui étaient à l'arrêt, les machines qui étaient à l'arrêt. Enfin bref, ils ont perdu leur journée, quoi. Et sur les routes, c'était un peu la même chose. Tous les camions étaient bloqués. Enfin, toute une partie des camions ont été bloqués pendant toute une partie de la matinée. Et la manifestation, ce qui était chouette, a rejoint les points de blocage et a un peu pris le relais, quoi. Pendant, en stationnant quasiment une heure tout autour de la gare de Marais, quoi. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé, qui était assez réjouissant, effectivement.
Est-ce que, d'abord, comment c'est reçu de la part des premiers concernés, c'est-à-dire les ouvriers des boîtes de mariage, et puis du côté des routiers qui bossent, quoi?
Ouais. Écoute, au niveau des ouvriers de mariage, les ouvriers de mariage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, c'est beaucoup du travail intérimaire, quoi. Donc les usines, elles travaillent en permanence, elles travaillent entre habites. Mais t'as beaucoup de postes et d'horaires décalés, hein. Donc c'est très difficile de voir tout le monde. Ce qu'il y a eu, c'est que les ouvriers ont été renvoyés chez eux. Hein. Une fois que ça a été coupé, de toute façon c'était foutu, quoi. La journée était foutue. Donc t'en as une paire qui sont venus nous rejoindre, quoi. Certains, t'as pas mal, notamment les jeunes, quoi. Après, au niveau de tout ce qui est transport, t'as plusieurs niveaux de transport. T'as les gros poids lourds, hein, énormes, qui partent sur l'international, et puis t'as ceux aussi qui font les allers-retours entre les boîtes, la garde de marée et tout ça. Bah eux, ils ont mis le camion à l'arrêt, ils se sont mariés, ils sont venus avec nous. Enfin bon, c'était chouette, quoi.
Ouais, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de colère, quoi.
Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de... Non, absolument pas. Non, ils acceptent le fait établi, et puis voilà, quoi. Et, je te dis, certains viennent, ils se mettent en pause, ils viennent fumer une clope, ils viennent discuter, ils se marrent un petit peu, et puis voilà, quoi.
Ces blocages, ils sont à l'initiative de qui et quel est le... personnel, entre guillemets, la composition du personnel du blocage. Bon, sociologie là, du blocage, s'il te plaît.
Ouais. écoute, il y a je sais pas, au départ, comme à chaque fois, on n'est pas très nombreux au départ, hein, on est 30-50, quoi, et progressivement, ça s'étoffe. Hein. Et à la fin, comme il y a eu plusieurs points, je dirais qu'on est à peu entre 100 et 200 personnes, quoi. Mm-hmm. Donc, grosso modo, c'est une partie des ouvriers des boîtes de marée, quoi. Je dirais que ça fait une bonne moitié, hein. Après, c'est des gens qui sont en grève. Donc, des secteurs qui sont actuellement en grève, donc des cheminots, des enseignants, des gilets jaunes aussi, pas mal présents. En gros, c'est la composition en ce moment. C'est pas toujours la même composition, hein, au fil des années des mouvements. Mais là, actuellement, c'est plutôt ça, quoi.
Et qui c'est qui les décide? Pardon, Denis.
Vas-y, je voulais simplement savoir comment que ça se passe au niveau des décisions. Comment elles sont prises?
Les décisions, elles sont prises surtout à l'initiative des sections syndicales des boîtes de marée. C'est eux qui décident parce que c'est eux qui ont.
Ouais, d'accord.
Ils ont les informations. Eux, ils ont. Ils travaillent justement sur les fameux logiciels. Hein. Il y en a qui ont ça sur leur téléphone portable. C'est marrant, quoi. Donc ils peuvent nous montrer. Tu vois, un peu. Qui va partir à quelle heure, c'est génial, quoi.
Ah, c'est génial. Mais il n'y a pas de relais, il n'y a pas de... Comment dire, est-ce qu'il y a une étape supplémentaire d'organisation? Est-ce que vous arrivez à fonctionner en assemblée générale, ou est-ce que l'intersyndicale, elle s'approprie les blocages, ou elle les reçoit avec une bienveillance, ou en disant rien, en laissant faire?
Disons que l'assemblée générale, elle a muté. Pour moi, c'était un petit peu inévitable. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu vraiment une assemblée générale, tu vois, la journée du 5. Hein, et après, je pense qu'une fois qu'elle est mort-née, quoi, c'est devenu une intersyndicale dans laquelle la composante gilet jaune est tolérée et acceptée, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Et donc, tu ne retrouves que les petits bureaucrates syndicaux locaux, quoi. Voilà. Les cheminots n'y participent pas vraiment, hein. Ils s'organisent dans leur coin à la gare. Les ouvriers de marée viennent de temps en temps pour dire que eux ils ont décidé que ça serait comme ça et pas autrement. Et puis l'assemblée générale elle acte et puis c'est tout, quoi, hein, tu vois. Et c'est très difficile d'y faire des propositions en ce moment. Donc voilà. Et donc, ben après, circule sur les une liste, comment dire, s'inscrivent les gens qui souhaitent participer à ce genre d'initiative, tu vois.
D'accord.
Et après, entre nous, on communique de façon, pas sur les réseaux sociaux, de façon très discrète, quoi.
Très discrète, bah il faut mieux.
Hein. Ah ouais, complètement,
alors,
ouais.
Alors la police, justement, alors.
Bah écoute, les flics, au début, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que t'arrives, t'es pas très nombreux. Donc ils viennent nous expliquer que ben voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse comme ci, comme ça, quoi. Et puis ben après c'est le rapport de force qui s'établit, donc plus on est nombreux, plus on a de marge de manœuvre. Hein. Et à partir de là, ben on les balade un peu, quoi. Et là, ça a vraiment été chouette le 17, quoi. C'était un peu ce qu'on avait connu il y a une paire d'années, mais qui était devenu une caricature de ça au fil des mouvements, parce que bon. Et là, je pense que comme les bases syndicales sont vraiment bien montées. Hein, Là, ça a vraiment été un vrai blocage. D'ailleurs, personne n'est content hein, en face. Hein. Enfin, les patrons des boîtes de marée veulent déposer une plainte collective, tu vois. Le préfet est remonté comme un coucou, et puis et Enedis aussi contre les électriciens. Enfin, tout le monde, voilà. Donc, ce qui veut dire que, et puis bon, alors, même certains patrons, tu vois, de la zone ont été sollicités par les médias nationaux pour venir se plaindre, quoi. Donc, ce qui est quand même assez je pense qu'ils ont vraiment perdu du pognon, quoi. Ça, ouais. Ce coup-ci, c'était pas un spectacle. Hein. Là, et puis en plus, on a remis ça le soir, alors. Donc voilà.
Et qu'est-ce que ça crée, ça, dans le mouvement, cette réussite des blocages? Je suppose que ça provoque de la joie et ça donne certainement peut-être envie encore de s'organiser de manière plus forte, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, je pense que. Ça a été vécu comme un succès, tu vois. Bon, la manifestation, en plus, ça a été un succès aussi. Et je pense que la journée du 17, tous les éléments réunis ont fait que ben, les gens sont un peu regonflés, quoi. Alors, malheureusement, il y a cette histoire de... comment dire, de vacances et tout ça, là, de période de trêve, comme on dit.
Ouais,
là.
Oui, comme on dit, ouais.
Ouais, voilà. Alors, c'est bon. Il faut être clair, hein, actuellement il n'y a que les cheminots qui reconduisent. Hein, donc voilà. Donc et les cheminots nous ont prévenus, hein, nous ont dit écoutez, pour l'instant ça tient, mais si on voit qu'on n'est pas rejoint et que ça n'embraye pas plus largement, à un moment, il ne faudra plus compter sur nous.
Hein. Ouais.
Ah, ils ont été très clairs. Hein. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de. Tu vois, il y a un petit coup de.
De pression, ouais.
Un petit coup de pression, c'est normal. Hein. Et puis voilà, quoi. Mais je pense aussi qu'ils sentent bien que bon, là, ils sont un peu seuls, quoi. Hormis lors des grosses journées, quoi. Où...
Non, mais surtout que ça redescend pas et que on voit bien qu'ils sont à la fois tout seuls dans le secteur en grève, mais ils sont tout seuls dans leur fédération. Quand on connaît la puissance financière de la CGT, ça pourrait être réglé très très rapidement, hein, cette histoire. Hein. Il suffirait de sortir le chéquier et puis d'y aller. Donnons un exemple ici à l'Union départementale de Reims, il doit y avoir 110, 120 syndicats.
Ouais.
L'Assemblée Générale et l'Union Locale CGT a remis glorieusement il y a deux jours un chèque de 400 euros pour la grève. Donc bon, voilà, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Hein. Ça fait même pas 10 euros par syndicat, quoi. C'est ridicule. Et en plus, annoncer la prochaine journée d'action au 9 avril, il faut imaginer ce que ça peut
représenter. Non, 9 janvier,
ça fait deux fois. Hein. Il faut imaginer ce que ça peut représenter, en plus, pour des gens de retourner au travail. Alors évidemment, ils y retournent la tête haute parce qu'ils ont bien fait chier le monde et on a senti quelques gouttes de transpiration sur la bourgeoisie et ses affidés, ses fondés de pouvoir. Mais retourner au travail aujourd'hui, alors que, on va dire, le point n'est pas totalement gagné, t'as les boules, quoi.
Ouais,
parce que les gens vont dire, tu nous as fait chier pour faire grève, et regarde maintenant, il se passe quoi, tu reviens bosser. Donc voilà, tu sens que si ça s'arrête, ça risque pas forcément de recommencer, quoi.
Ouais. Oui, mais de toute façon, nous, ils l'ont dit. Hein. Nous, ils ont dit, vous êtes gentils de passer et nous taper dans le dos en disant, c'est bien les gars, il faut continuer. Mais au bout d'un moment, c'est plus suffisant, quoi.
Ouais.
Tu vois. Et je peux très bien comprendre ça, quoi. Le souci, c'est que tu vois pas d'autres secteurs. On parle beaucoup de 95, mais en 95, moi je me souviens, moi personnellement, 15 jours de grève, au bout de 15 jours de grève, mais 3 semaines chez les cheminots, c'était plié, quoi. Parce que t'avais un nombre de secteurs beaucoup plus important qui reconduisaient, quoi.
Ouais.
Et au niveau du port, il n'y a pas d'espoir?
Bah, au niveau du port, le gros problème, c'est que le port, maintenant, je veux dire, bah, voilà, tu vois, en 95, il y avait encore, c'est pareil, je veux dire, tu avais encore les derniers, comment dire, les derniers dockers, quoi, tu vois, qui avaient encore une certaine importance, tu vois, mais là, il n'y a plus tout ça, hein. Maintenant, c'est de la manute, manute en même chose, hein. En intérimaire.
Ouais, intérimaire, enfin,
c'est
quoi,
hein. Bah ouais, c'est énormément, tu vois, énormément de travail intérimaire.
Je crois savoir que, ouais, que le syndicat représentatif au niveau de ceux qui ne sont pas intérimaires, c'est la CFDT.
Oui, ben voilà. Alors, et puis la CFDT est très présente sur le port aussi, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de beaucoup de grosses boîtes, par exemple Findus, hein, c'est plusieurs
Findus, centaines. Ouais.
La Continentale, c'est pareil, beaucoup de boîtes agroalimentaires où la CFDT est, comment dire, est majoritaire. Mais par contre, on a appris que ben justement, les gens dans ces deux boîtes-là voulaient sortir. Et que la CFDT a envoyé des gens du national pour leur faire de la pédagogie, tu sais. Du style, ouais. Non, c'est pas la peine.
On négocie, laissez-nous tranquille.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais ceci dit, il y avait quand même des gens de la CFDT la dernière fois dans la manif, quoi. Donc, ouais, donc il y a tout ça qui fait que c'est un peu compliqué, quoi. Franchement.
Ben, ouais. C'est clair que la nature du prolétariat aujourd'hui et de l'emploi a des conséquences directes sur les formes de résistance. On avait évoqué en début d'émission notre action de blocage sur la poste,
ouais.
Colis-poste. On a pu rentrer à l'intérieur pour certains d'entre nous. Oh là là, quelle folie, mais vraiment, avec en plus des systèmes de rémunération qui impliquent des cadences, enfin, vraiment le bagne total, ouais. Des gens qui sont éclatés parce qu'ils ont bossé toute la nuit, qui nous explique que s'ils ne quittent pas à 13h comme prévu, ils peuvent pas faire les 2 heures de plus parce qu'il faut aller chercher les gosses et tout, machin. Donc ils vont avoir 2 heures dans l'os. Par contre, quand ça se passe correctement et qu'on les bloque et qu'on permet de suspendre justement l'exploitation traditionnelle, quotidienne, normale, tu as des gens qui sont ravis, quoi, parce qu'ils, ouais, disent, moi j'aimerais bien faire grève, vous avez raison, on est complètement avec vous, mais je peux pas, je vois pas qu'à faire. Et en plus, il y a déjà ne serait-ce qu'une ignorance totale du fait de faire grève. T'as une espèce de diktat idéologique du taulier et du patron sur ce truc où l'esprit de résistance et de désobéissance, il est très difficile à faire vivre, quoi.
Ah ouais, complètement.
Faut le rappeler, hein, dans le privé, hein, pour faire grève, vous avez juste besoin d'être deux. Hein.
Mais nous, il y a d'autres boîtes aussi, hein, dans le privé, il n'y a pas que le port, tu vois. Il y a d'autres secteurs aussi qui pourraient être stratégiquement importants. Et nous, il y a une grosse boîte, une grosse plateforme de téléphonie, là, tu sais.
Ouais.
Alors là, c'est pareil, hein, je crois que c'est 3000 postes sur les deux sites Boulogne-Calais, quoi. C'est quand même absolument énorme. Alors en plus, c'est vraiment une sociologie particulière. Alors là, si tu veux un CDI, il suffit de sonner, t'as un CDI tout de suite, hein, mais personne ne reste. Donc, nous, on connaît des gens là-dedans, c'est très difficile parce que, tu vois, c'est des horaires, c'est des tiers-temps, c'est des postes, c'est beaucoup de nanas jeunes, tu vois, seules. Enfin, tu vois, donc, il y a tout, si tu mets bout à bout l'ensemble des facteurs, tu vois que c'est compliqué, tout est compliqué, tu vois, pour mettre les gens en mouvement et de façon durable. Et
alors comment ça peut évoluer tout ça et comment ça peut se maintenir, hein? Quelles recettes, quels ingrédients pourraient faire que la mayonnaise prenne?
Bah, écoute, si t'as la recette, tu me la donnes.
Faut pas trop fort, voilà.
Ouais, mais il faut, moi je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à aller discuter, quoi. Enfin, tu vois, ça me semble assez important, quoi. D'avoir une cartographie un peu de tout ça, et je sais qu'il y a des copains de Toulouse qui avaient travaillé là-dessus. Moi, ça me semble assez intelligent comme truc, parce que faire des diffs de tracts, tu vois, sur les ronds-points, à chaque fois, de distribuer des milliers de tracts, des espèces de bouteilles à la mer, où tu sais pas à qui tu... Voilà. Tu vois, ça, c'est bon, c'est bien gentil, tout ça, ce travail syndical de base, mais qui me semble plutôt à occuper les gens qu'à autre chose, quoi. Alors qu'on sait qu'il y a des sites où, justement, il y a un travail à faire, quoi. Un travail bon de longue haleine,
ouais.
Ingrat, tout ce qu'on veut, enfin bon, voilà, ça, c'est le problème.
Ok. Ben
Ben ouais, il faut aussi se transformer en militant de la grève, bien sûr, et vraiment incarner le mouvement dans les discussions, mais pas seulement d'un point de vue, comme tu l'as dit, syndical, mais en recréant du lien pour montrer aux gens que la société, la résistance, les salariés, ceux qui font tourner la boutique, ben c'est nous, quoi.
Ben, tout à fait.
Et que, bien sûr, et puis développer et toujours mettre en avant la solidarité, quoi, ne pas laisser les gens sur le bas-côté si jamais il se passe quelque chose, quoi, parce que pour le moment la répression elle est bon physiquement dans la rue sur les grosses manifestations, quoique ça s'est un peu calmé, mais elle va aussi être dans les boîtes s'il y a quelqu'un qui ouvre sa gueule, quoi.
Ah bah ça c'est clair, hein. Je pense qu'il y a déjà eu il y a eu pas mal de garde à vue là, je crois qu'il y a un mec d'EDF là sur l'île qui a été mis en garde à vue pour les coupures de courant. Et je pense que ça peut tomber à n'importe quel moment.
Bah écoute,
merci, bon courage.
Bon courage.
Ouais, bah vous aussi. Hein.
Il y a des choses qui sont prévues dans les prochains jours.
Bah écoute, il y a une manif samedi qui est appelée. Je pense qu'il y aura super. Un peu de monde parce que ouais, voilà, donc qui devrait permettre aux gens justement qui peuvent pas débrayer ou se mettre en grève de raccrocher un peu et puis ben de voilà de redynamiser un peu tout ça, quoi.
D'accord.
Donc samedi matin normalement.
Ok, ben nous aussi, il y a une manif de gilets jaunes samedi. Le rendez-vous a lieu à 11h au carrefour du boulevard des Tondeurs, à côté de la station Total. Et on le répète, vendredi matin à la gare, toute la matinée, et à midi, on mange, hein, et on boit, et on discute, et c'est pas triste. Hein, voilà. Merci Xavier, à bientôt.
Ouais,
à bientôt.
À bientôt, bon courage, hein, salut.
Salut.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.